100 milliards de dollars, c'est le bénéfice réalisé au premier trimestre de cette année par les 28 plus grands groupes mondiaux du pétrole et du gaz, notamment grâce évidemment à la forte hausse des coûts de l'énergie du prix du baril. Michel Rumi, est-ce qu'on a déjà vu des chiffres similaires dans l'histoire économique récente ?
Non, dans l'économie récente, non. Mais il est vrai que la situation récente est aussi exceptionnelle dans la mesure où la pénurie, on va dire, de produits énergétiques ont fait augmenter grandement l'inflation et donc du coup le prix des chiffres d'affaires, etc., etc. Donc c'est sûr que les grandes entreprises et multinationales, notamment basées dans les secteurs énergétiques, ont enregistré des chiffres d'affaires énormes.
Alors Aurore Laluc, pourquoi concrètement le gouvernement refuse-t-il justement de taxer ces super profits ?
C'est incompréhensible. C'est incompréhensible, c'est injustifiable et c'est irresponsable à mon sens. En fait, on a besoin d'argent. Hein. Dès le mois de mars, l'Agence internationale de l'énergie nous dit, côté européen, vous allez avoir 200 milliards de super profits. Vous allez avoir entre 55 milliards et 100 milliards de mesures d'aide pour aider tout le monde à faire face à cette crise. Il va falloir taxer. Même chose du côté de la Commission européenne, c'est-à-dire consensus gauche-droite. Hein. C'est pas la droite ou la gauche. Même chose du côté du Parlement, c'est du consensus gauche-droite. Donc la réponse du gouvernement français, à un moment en plus on a besoin de faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État, est vraiment, à mon sens, incompréhensible. Deux possibilités. Soit on est dans une posture parfaitement idéologique, soit on est dans un État qui n'est pas un État libéral, contrairement à ce que le gouvernement dit, qui est plutôt néolibéral, c'est-à-dire qu'il utilise l'argent de l'État, finalement, pour aider les plus puissants. Et c'est problématique du point de vue de la défense de l'intérêt général.
Olivier Abbo, pour vous, c'est la même chose, le même constat ?
Alors non, évidemment, moi j'ai un point de vue différent. Alors c'est vrai que nos voisins l'ont fait, certains comme le Royaume-Uni, mais le taux effectif d'imposition selon l'OCDE au Royaume-Uni, c'est 18% chez des entreprises. Hein. Chez nous, c'est 30%. Alors il y a souvent beaucoup de démagogie quand on parle des grandes entreprises. Total, 80% de son boulot, ça se fait dans l'extraction et ils payent des impôts sur place, hein, 500, 600 millions d'euros par exemple en Norvège. Et en fait, sur les différents impôts qu'ils payent, il y en a donc par exemple en 2021, il y en a 16 millions qui sont payés à l'extérieur, qui sont payés en tout, pardon, et 2 millions qui sont payés en France à travers, évidemment, les charges sociales, les différentes taxes qui sont apportées. Et on ne compte pas ce que ça rapporte à l'État à travers la TVA. Donc ça n'est pas vrai qu'on ne paye pas d'impôts. Ça n'est pas vrai non plus qu'il y a cette idée-là souvent quand on en parle que ils arriveraient à éviter de payer des impôts. Mais non, en fait, ils en payent dans les pays où se font l'activité. Et en fait, l'activité de raffinage et de distribution, c'est une activité qui, la plupart du temps, est hyper peu rentable. En ce moment, elle est rentable grâce à la crise de l'offre, mais en 2020, par exemple, Total a perdu de l'argent, en 2015, en 2016 aussi.
On va voir tout à l'heure que c'est pas. Il y a aussi un petit arrangement aussi sur l'impôt sur les sociétés, Frédéric.
C'est quoi un super profit au fond ? Parce que c'est ça aussi la question, Aurore Laluc.
Alors, la super profit, en fait, c'est assez simple à calculer. En fait, on a déjà taxé les super profits, hein, ça arrive souvent. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait la différence entre un moment où on estime qu'il y a quand même une très très grosse différence entre une année et l'autre. Voilà. Et on se dit, il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait normal. Et là, en l'occurrence, sur ce type d'entreprise, qui est encore moins normal, en fait, c'est que les coûts de production n'ont pas augmenté. Ça ne coûte pas plus cher d'extraire du pétrole. Les coûts de production n'ont pas augmenté. Ce qui est lié aujourd'hui à ces super profits, c'est particulièrement dérangeant. C'est quoi ? C'est la guerre en Ukraine. Et c'est tout le jeu spéculatif qui se fait autour de cette guerre et de Poutine qui nous attaque, nous, l'Europe, dans nos valeurs et qui attaque les démocraties européennes. Donc c'est là où, en plus, si vous voulez, ces profits sont extrêmement dérangeants, à mon sens, et anormaux.
Mais Michel Rumi, est-ce que taxer aujourd'hui les super profits, ça veut dire donner du pouvoir d'achat aux Français ?
Non. Non. J'ai expliqué. Dans la mesure où, concrètement, je trouve que le problème n'est pas de taxer ou pas. C'est que tout le monde, c'est légitime, que tout le monde contribue, on va dire, à passer cette mauvaise période. Et taxer n'est pas, pour moi, la meilleure des choses. C'est la méthode qui convient de revoir. Parce que taxer, en fait, c'est qu'on pourrait taxer, admettons, je prends Total, mais ça peut être n'importe quelle entreprise, on pourrait taxer Total. Et puis, lorsqu'on demandera peut-être à Total de faire des efforts sur le salaire ou sur d'autres affaires, eh bien non, mais j'ai payé ma taxe, donc je suis tranquille. Alors que l'incitation fait qu'on pourrait dire... Faites des efforts. Et puis nous, gouvernement, à la fin de l'année, lorsqu'on verra un peu ce qui se passe, on pourra, à ce moment-là, retaxer éventuellement. Mais l'idée, c'est sur la méthode et le tempo hein, pour récupérer cette somme éventuellement.
Mais est-ce que ça marche vraiment, ça, d'inciter les entreprises, Olivier Babeau ? Qu'est-ce qui peut les obliger à débloquer des sous pour
non,
les
non, mais
Français.
Rien. Enfin, il faut comprendre. Parce que le terme de spéculation, par exemple, attention, c'est un peu miné, parce qu'on a l'impression qu'il y a des gens qui vont se faire de l'argent en profitant de façon un peu illégale et en faisant monter les cours. C'est pas vrai.
C'est entièrement faux.
Non. Alors, sur l'énergie, c'est un problème de crise d'offres. Vous avez une demande qui explose et une offre qui est limitée parce qu'il y a une partie des offreurs qui ne sont plus là. Et donc, en fait, mécaniquement, c'est pas Total qui décide du prix, par exemple, de l'argent. Je ne suis pas là pour défendre Total spécialement. J'ai même pas d'action, d'ailleurs. Je ne suis pas partie des actionnaires, mais le fait est que finalement, ils sont effectivement les chanceux en ce moment d'un truc qui va bien. Alors, si on taxe les super profits, il faudrait peut-être aider à ce moment-là les super déficits, les années où ça va mal. Je crois qu'en général, il y a beaucoup moins de monde. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir ce que vous faites avec cet argent, parce que certes, il y a une partie pour les actionnaires, mais il y a une partie pour cette transition complètement dingue que Total Energy a décidé de faire. Acheter, par exemple, beaucoup d'entreprises de panneaux solaires. Cette transition pour sortir des hydrocarbures, il faut la financer. Donc, cet argent, il n'est pas totalement inutile quand il est encore dans les caisses de Total. Après, chez nous...
Olivier, je répondais juste. Ça va bien? Non, ça va pas bien, en fait. Enfin, on est dans un moment qui est profondément dramatique où, justement, on demande à taxer les super-profits parce que ça ne va pas bien. Et ensuite, tout ce jeu spéculatif, il est quand même fait autour d'un moment qui est celui de la guerre en Ukraine. Donc, c'est ça aussi qui est extrêmement dérangeant. Si encore on était dans un moment où tout allait bien, si ces profits étaient liés à une révolution technologique absolument incroyable, si les coûts de production augmentaient, non, il n'y a rien de tout ça. Donc, nous, non, tout va pas bien en ce moment. Et on est dans un problème qui n'est pas que seulement économique. Il est aussi social, il est politique. Et c'est aussi nos valeurs qui sont aujourd'hui attaquées par Poutine. Ensuite, sur la question de l'utilisation des super-profits, évidemment, c'est fait pour faire de l'aide sociale. Quand l'Italie taxe, quand l'Espagne taxe, quand la Grande-Bretagne taxe, c'est pas pour le plaisir de taxer. Enfin, en fait, personne ne fait taxe pour plaisir de taxer. C'est pour pouvoir financer la gratuité des transports, pour pouvoir faire des aides sociales et ce genre de choses. Donc oui, évidemment, c'est utilisé pour ça aujourd'hui. Alors, et c'est un gouvernement conservateur.
Vous l'avez dit justement.
C'est ce que vous venez de définir, c'est un chassé-croisé idéologique. C'est-à-dire que d'un côté, on a une situation qui est très pragmatique côté Royaume-Uni. Il faut savoir qu'au mois de février, ils avaient commencé à en débattre. Le gouvernement était totalement opposé.
Les conservateurs.
Et les conservateurs étaient totalement opposés. C'était une proposition des travaillistes. Et puis là, face à l'inflation, face à la hausse de toutes les dépenses, on arrive à une situation totalement pragmatique, où on a besoin d'argent, on fait rentrer de l'argent dans les caisses de l'État. Là, en France, on est vraiment à chaque fois, je trouve, et c'est très préoccupant, dans une situation où on ne défend pas l'intérêt général. Enfin, quand on me dit on va inciter, on n'incite pas les grandes entreprises, mais et d'ailleurs, si on a des lois, si on a des règles, c'est parce qu'il faut des règles pour tout le monde. Parce
Total a lâché un peu de lest avec ses 20 centimes de baisse pour septembre,
Total
octobre.
Total n'a pas augmenté ses salariés, par exemple. Donc, les grandes entreprises font rarement des gestes comme ça. Les congés payés, on ne les a pas obtenus par l'incitation, par la responsabilité sociale des entreprises. Ben non, il y a du rapport de force en politique.
Michel Rumi, justement, à propos de cette taxe, donc ce rabais de 20 centimes, est-ce que finalement, ce n'est pas une manière aussi de s'en sortir pour Total? Parce que ces 20 centimes, tout le monde va en profiter, même ceux qui ne pâtissent pas des problèmes de pouvoir d'achat.
Bien sûr. D'abord, je pense que Total a trouvé son intérêt bien compris. Quel est son intérêt de ne pas faire un effort, sachant qu'il y avait quand même un coup près derrière. Je pense qu'il a été fortement incité, on va dire, là-dessus. Bien sûr, la grande difficulté, c'est que, et c'est tout le problème de la loi de pouvoir d'achat, elle n'est pas assez ciblée sur des ménages qui sont un peu plus... on va dire moins fortunés que les autres, qui sont les plus démunis, et qu'il y en a d'autres qui ont les moyens de supporter cette inflation. Et donc et l'idée aujourd'hui, c'est qu'on a préféré arroser pour essayer, parce que c'est compliqué de voir sur quels critères, etc. Et la grande difficulté est là. Mais bien sûr, il y aura toujours des effets d'aubaine là-dessus. Et rien que pour revenir entre la Grande-Bretagne et la France, je voulais rien que simplement dire, c'est entre le blanc et le noir. C'est-à-dire que être totalement libéral, il n'y a aucun État qui est libéral et aucun n'est étatique. Donc on est entre du gris clair ou gris foncé, selon le gouvernement.
Donc ils y ont réfléchi, en dehors de toute idéologie, de façon assez pragmatique. Et c'est vrai que pour un État, quand il y a quelques milliards, parce qu'on parle d'une poignée de milliards.
10 milliards.
Voilà, c'est une bonne poignée, mais effectivement 10 milliards à les prendre. 10 milliards maximum de ce qu'on pourrait arriver si le Conseil constitutionnel empêche pas. Mais effectivement, c'est assez tentant. Alors pourquoi ils ne l'ont pas fait? On va dire, moi je suis presque étonné moi-même, mais je pense qu'ils se sont dit, il y a quand même plus à perdre pour la France sur le long terme qu'à gagner. Parce qu'effectivement, les entreprises pour venir en France veulent quoi? Elles veulent, et pour rester d'ailleurs, elles veulent de la stabilité fiscale et puis elles veulent aussi un niveau de fiscalité qui est relativement bas. Au moment où on est plutôt dans une énergie positive de ce point de vue-là, c'était un mauvais signal, je crois, à envoyer. Ils se sont dit qu'ils auraient un quick win, comme on dit, une victoire
un gain rapide.
rapide, ah, oui, je vais traduire, un gain rapide avec effectivement une baisse négociée où effectivement il y a eu des négociations qui ont fait qu'ils se sont sentis obligés. Mais il faut quand même rappeler, quand on paye 2 euros le litre l'essence, il y a quand même 1 euro qui part dans la poche de l'État. Hein, sur le moment, il faut
tout. Ils sont entendus sur un taux d'imposition mondial de 15% pour tout le monde, c'est-à-dire que chaque multinationale verra ses bénéfices taxés à hauteur de 15%. Quel que soit le pays dans lequel elle opère. Exemple, une entreprise française qui serait imposée à 9% dans un autre pays avec une fiscalité plus avantageuse serait obligée de reverser la différence, à savoir les 6%, à l'État français. Grâce à cette mesure, les pays signataires espèrent donc dès 2023 dégager 150 milliards de dollars de recettes supplémentaires. Mais ce qui pose encore question, c'est la répartition de l'impôt entre les pays. Et le 15 et 16 juillet dernier, lors du G20 Finance, qui s'est tenu à Bali, il était question de discuter notamment de ces excès de profits dégagés, donc les surprofits, par les entreprises, là, dont le chiffre d'affaires dépasse les 20 milliards d'euros. Des excès qui sont voués à être partagés entre les pays dans lesquels les biens et les services sont consommés. Alors, à ce jour, aucun accord n'a été trouvé. Le texte sera soumis à consultation courant août, voté mi-2023, pour une application effective en 2024. Aurore Laluc, en fait, il y a 136 pays sur les 195 qui ont voté cette réforme de la fiscalité internationale, ce qui laisse 59 potentiels paradis fiscaux. Est-ce que cela va suffire à régler le problème de l'évasion fiscale?
Alors, cet accord, qui s'appelle accord OCDE, est un accord historique. J'en suis la rapportrice au Parlement européen. Je suis très contente que vous en parliez. Il vient répondre, en fait, à quelque chose qu'a mentionné Olivier Babeau. Quand on dit, par exemple, les entreprises françaises sont taxées à hauteur de X%, ça, c'est ce qui est affiché. Le taux réel, ce qu'on appelle le taux effectif, mais c'est jamais celui-là, parce qu'ils ont une batterie d'avocats fiscalistes, qui fait qu'en fait, les plus riches d'entre nous dans ce pays ne payent pas le taux affiché. Et le boulanger du coin, il paye plus d'impôts qu'une grande multinationale. Et c'est partout pareil en Europe. En fait, en Europe, on se rend compte que les multinationales sont taxées à hauteur de 8-9% maximum, là où les petites PME sont autour de 20%. Et ça, c'est un vrai sujet d'inégalité. Je trouve qu'il y a une rupture d'égalité démocratique à ce niveau-là. Et effectivement, c'est pour ça qu'on a mis en place cet accord OCDE. Ça ne va pas être le grand soir, mais c'est déjà un premier signal qui va quand même bien embêter certains paradis fiscaux.
Alors vous parlez,
les difficultés de, on va dire, d'EDF sont notamment dues à son principal actionnaire qui était l'État avec le travail de bouclier tarifaire. Donc c'est pas totalement, on va dire, la gestion, on va dire, d'EDF. L'idée est que à travers cette entreprise, et ce qu'il faut bien voir, ça s'inscrit dans un périmètre plus large, c'est-à-dire qu'on veut retrouver une souveraineté énergétique, donc notamment avec EDF, mais la difficulté est là, c'est-à-dire que pour l'instant on a nationalisé, c'est la première but de court terme. Mais après, qu'est-ce qu'on fait comme politique, on va dire, énergétique de la France? Il ne faut pas s'arrêter uniquement à ce sauvetage. C'est maintenant, il faut réfléchir au mix énergétique des années futures. Et parce que ça va nous revenir sur le coin de la figure très rapidement.
Oui, c'est ça. Frédéric.
Sur le volet économique, justement, sur la politique économique du gouvernement Orla-Luc, alors je vous prends un peu à rebrousse-poil, mais malgré tout, quand on voit que la France a plutôt des meilleurs résultats, une inflation un peu moins haute, elle reste très haute, évidemment, mais un peu moins haute que ses voisins. Est-ce que ça ne vient pas sanctionner positivement certains de ces choix du gouvernement, justement?
Ça fait totalement lien avec ce qui vient d'être dit sur EDF, en fait. Les mauvais résultats d'EDF viennent, en fait, du gouvernement a dit, écoutez, vous allez mettre en place un bouclier tarifaire, vous allez réduire les taxes. Et c'est ce qui fait que nous, Français, on a une électricité moins chère que d'autres au niveau européen. Sinon, on se retrouverait dans la situation à la pompe. Voilà, où les prix sont en train d'exploser. Et c'est pour ça que EDF il lui manque 10 milliards dans son compte d'exploitation aujourd'hui. C'est à cause de ça. Mais ça fait aussi qu'on a une inflation qui est moindre.
Parce qu'on a des meilleurs résultats qu'ailleurs. Sur la stratégie d'EDF, c'est quand même plutôt un échec pour l'instant. Il y a une grosse mutation à financer. Alors c'est vrai qu'on s'est un peu bercé d'illusions en disant on va pouvoir imposer à une entreprise, c'est-à-dire pas à nous, pas à l'État, donc pas aux Français, d'avoir des prix moins bas. Mais à bout d'un moment, ça finit par nous revenir parce que les pertes qui sont associés à cette vente à perte qu'on a obligé à faire EDF, en fait, elles nous reviennent dans la figure. Malheureusement, il y a toujours deux possibilités. Soit c'est l'usager qui paye, c'est-à-dire vous payez votre facture tous les mois, soit c'est le citoyen à travers la dette, parce que la dette, vous savez, ça n'est jamais que de l'impôt.